SBS Radio.
D'abord, les grands titres de ce mardi. Le Premier ministre australien fait appel à la communauté internationale pour des conséquences concernant les plateformes des médias sociaux après la diffusion directe de l'attaque terroriste à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement fédéral va réduire le nombre d'immigrés qui viennent en Australie chaque année. Un homme arrêté aux Pays-Bas après une fusillade qui a fait 3 morts et 5 blessés dans un tramway. Le Premier ministre australien Scott Morrison fait part de ses préoccupations concernant les plateformes des médias sociaux à la suite de l'attaque terroriste de Christchurch. Il a écrit au président du groupe du G20, le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Il a appelé à un accord sur des conséquences claires pour les entreprises dont les plateformes sont utilisées pour faciliter et normaliser des actes horribles. La Première ministre néo-zélandaise Jacinta Ardern a déclaré que son gouvernement avait tout fait pour ce qui était en son pouvoir pour supprimer les images de la fusillade sur Internet. Facebook a déclaré qu'il avait effacé 1,5 million d'exemplaires de la vidéo de la fusillade. On écoute le Premier ministre australien Scott Morrison.
Australia can take action in this area and we're looking at some practical proposals in this area right now. But for those actions to have, I think, have greater impact on social media companies and the technology companies, it has to be done in concert with other big economies around the world. If you can write an algorithm to make sure that the ads they want you to see can appear on your mobile phone, then I'm quite confident they can write an algorithm to screen out hate content on these social media platforms.
Scott Morrison. La loi sur la possession d'armes en Nouvelle-Zélande va changer, c'est ce qu'a annoncé la première ministre Jacinta Ardern après le massacre dans 2 mosquées à Christchurch vendredi dernier qui a fait 50 morts. Reportage de Carrie Newton, l'envoyé spécial de Radio France Internationale en Nouvelle-Zélande.
Si la culture des armes est réelle en Nouvelle-Zélande, elle l'est surtout parce qu'une grande majorité de la population vit en milieu rural et fermier. Mais les massacres perpétrés dans les 2 mosquées de Christchurch vendredi ont remis les armes à feu au centre du débat. Les Néo-Zélandais pro-armement se pensaient raisonnables, le contexte n'a rien à voir avec celui des États-Unis. Pourtant, une polémique pointe. Il semblerait que les permis de port d'armes soient très facilement octroyés. Le journaliste de l'Otago Daily Times, George Block, enquêtait sur l'armement et venait de recevoir des données compilées de l'administration. Il y a trouvé le réel taux d'attribution des ports d'armes à feu.
La police du district du Sud où résidait le suspect des attaques terroristes a remis des ports d'armes à feu à 99% des personnes qui les réclamaient, et cela chaque année, depuis 5 ans. Et à 98% des postulants les 10 dernières années. Ça a poussé un militant anti-armement à réclamer des restrictions plus strictes et un processus de cooptation plus rigoureux. Car selon lui, trop de gens y accèdent, et des armes se retrouvent en possession des mauvaises personnes.
La chef du gouvernement est bien consciente du dilemme que cela posera aux fermiers et a promis qu'elle prendrait conseil. Elle pourrait s'inspirer de l'Australie voisine qui a réformé ses lois sur l'armement il y a 20 ans, justement après un massacre de masse.
Carrie Newton, l'envoyé spécial de RFI en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement fédéral en Australie devrait annoncer une réduction prévue des niveaux d'immigration. Le journal The Australian rapporte que le cabinet fédéral a approuvé un plan visant à ramener le plafond à 160 000 personnes par an contre 190 000 actuellement. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement encouragera les étudiants étrangers également à fréquenter des universités en dehors des 2 villes de Sydney et de Melbourne, et une politique de peuplement régional serait mise en place. On écoute le ministre de l'énergie Angus Taylor.
We have seen a reduction in the permanent intake in recent times down to around the 160,000 mark, and most importantly we've got to get the balance right here. People living in the outer suburbs of our cities understand what the impact of fast rates of immigration means for congestion, for access to services, for access to jobs within reasonable timeframes from where they live. We've got to get the balance right here.
À moins de quelques jours des élections en Nouvelle-Galles du Sud, le chef de l'opposition de cet État, Michael Daly, a dû défendre les remarques faites sur l'immigration. Il a déclaré lors d'un meeting politique en septembre dernier à Wentworth Falls, dans les Blue Mountains, que les jeunes Sydneysiders quittent la ville de Sydney car c'est trop cher et sont remplacés par des gens venus de l'Asie. Un porte-parole de Mike Daly déclare qu'il était en train de discuter le coût de la vie et le coût des maisons à Sydney. On écoute un extrait de cette déclaration de septembre dernier.
Our young children will flee, and who are they being replaced with? They're being replaced by young children, young people from typically Asia with PhDs. So there's a transformation happening in Sydney now where our kids are moving out and foreigners are moving in and taking their jobs.
Le cyclone Trevor devrait atteindre les côtes du Far North de Queensland ce soir. C'est un cyclone de catégorie 3 pour le moment, avec des vents de quelque 165 km/h. Des pluies diluviennes sont prévues également. Les résidents sont priés de prendre leurs précautions. Et puis le cyclone Idai au Mozambique, avec une estimation que près de 1000 personnes pourraient avoir trouvé la mort. Le Malawi et le Zimbabwe sont aussi affectés. En Grande-Bretagne, le président de la Chambre des communes, John Bercow, déclare que le gouvernement ne pourra pas soumettre une nouvelle fois au vote des députés son accord de Brexit sans de changement substantiel. Explication de Muriel Delcroix pour RFI.
Le speaker, le président de la Chambre des communes, vient de lancer un énorme pavé dans la mare du Brexit en exhumant une convention parlementaire datant de 1604, selon laquelle le gouvernement ne peut pas demander aux députés de voter deux fois de suite sur le même texte. John Bercow contrarie ainsi brutalement les plans de Theresa May, qui s'apprêtait à solliciter à nouveau le Parlement après deux échecs cuisants et alors qu'elle est actuellement en pleine discussion avec différents groupes de rebelles Brexiteurs pour les convaincre de soutenir son accord de divorce avant le sommet européen de jeudi à Bruxelles. Comme si la situation n'était déjà pas assez compliquée pour elle, la Première ministre se retrouve face à un nouveau casse-tête et va devoir trouver un moyen de modifier son texte. Mais il est possible qu'on s'achemine tout droit vers une crise constitutionnelle si le gouvernement s'engage dans un bras de fer avec les gardiens de la Chambre des communes, en essayant par exemple de soumettre une motion demandant à suspendre, vu les circonstances exceptionnelles, les règles existantes. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment va répondre le gouvernement, dont un porte-parole a refusé de commenter la décision du speaker. Il est clair que Theresa May doit activement échafauder un plan pour contourner cette nouvelle difficulté.
Muriel Delcroix pour RFI. Aux Pays-Bas, 3 morts après une fusillade à Utrecht. Le présumé tireur a été arrêté. Il avait ouvert le feu dans un tramway. Reportage Oriane Verdier pour RFI.
L'homme soupçonné d'avoir ouvert le feu ce lundi matin a été arrêté dans un quartier du nord de la ville, non loin du lieu où avait été retrouvée la voiture rouge avec laquelle il se serait enfui après avoir tué au moins 3 personnes. L'identité du suspect avait été publiée en début d'après-midi. La police voulait agir vite pour éviter une récidive. Ce lundi, le père de l'homme recherché s'est exprimé depuis la Turquie, son pays d'origine. Il a affirmé qu'il voulait que son fils soit puni s'il était bien l'auteur de l'attaque. Les motifs de cette fusillade sont encore flous. Elle a eu lieu dans un quartier résidentiel et habituellement calme de la ville. Si la piste terroriste n'est pas encore écartée, il pourrait également s'agir d'un différend familial. Gokman Tanis était connu des services de police pour plusieurs crimes et délits, notamment une fusillade en 2013. Selon la télévision publique néerlandaise, il a été présenté à la justice il y a 2 semaines dans une affaire de viol.
En Allemagne, la tension à l'ouverture d'un procès hier d'un réfugié syrien qui est jugé pour homicide contre un jeune Allemand mort en août dernier. Cette mort avait donné lieu à des manifestations d'extrême droite dans les jours qui avaient suivi. Reportage Pascal Thibault, RFI.
Avez-vous participé à des manifestations, des mouvements anti-migrants Pegida ou Prokemnitz? Êtes-vous membre ou sympathisant du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne? Vous êtes-vous exprimé publiquement sur la crise migratoire? Autant de questions que l'avocate de l'accusé a dès l'ouverture du procès posé au juge. La juriste souhaitait d'ailleurs que son client soit jugé dans une autre région allemande, craignant un éventuel parti pris des magistrats ou la pression sur ces derniers de l'opinion publique. Le procès contre le réfugié syrien Alachéki a été ajourné jusqu'à ce que ces questions posées par son avocate aient été tirées au clair. Elles montrent bien l'état de tension qui règne dans la région après le meurtre fin août de Daniel H. à Chemnitz, qui avait donné lieu dans les jours suivants à des manifestations manifestations et des débordements organisés par l'extrême droite. Ces images avaient choqué l'Allemagne et fait le tour du monde. Plus de 6 mois après, la tension reste palpable. Des élections auront lieu en Saxe le 1er septembre dans une région fief de l'extrême droite. Plusieurs centaines de hooligans impliqués dans les heurts de l'été dernier se rassemblaient ce lundi pour enterrer un de leurs leaders. La mairesse de Chemnitz a souhaité qu'une condamnation soit prononcée, mais l'issue du procès est plus qu'incertaine en raison des preuves ténues contre Alaa Shekhi.
En Afrique, à nouveau, au Mali, le bilan provisoire après l'attaque qui a eu lieu à Diora, dans le centre du pays, dimanche matin. Une attaque commise par des dizaines d'hommes à moto et en voiture. Selon l'état-major de l'armée, le dernier bilan fait état de 23 morts et de 17 blessés. Marie-Pierre Olfan, RFI.
Première réaction officielle, celle du président Ibeka qui a condamné l'attaque sur Twitter hier en fin d'après-midi. Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé la détermination du Mali à lutter contre des actes ignominieux, je cite, commis par un ennemi lâche. Autre condamnation, celle de Mahamat Saleh Anadif. Le chef de la mission de l'ONU au Mali s'est dit consterné. La MINUSMA est aux premières loges dans le centre du pays. C'est elle qui a organisé hier l'évacuation médicale de plusieurs blessés. Cette attaque meurtrière a aussi fait réagir rapidement l'opposition. La dégradation dans le centre du pays doit interpeller le président et le gouvernement, estime le Front de sauvegarde de la démocratie dans un communiqué. Le FDS interroge les conditions générales dans lesquelles les troupes maliennes sont engagées dans la guerre et le comportement de la hiérarchie militaire. Pour l'opposition, le chef de l'État doit prendre des mesures urgentes pour sortir de l'immobilisme et des effets d'annonces stériles. Fin de citation. Dans ce contexte sécuritaire difficile, le Front de sauvegarde de la démocratie plaide à nouveau pour des assises nationales inclusives.
Marie-Pierre Olfan pour RFI. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth, un maximal de 34 degrés. Adélaïde, 30. Melbourne, 26. Hobart, 22. Canberra, 26. Sydney, 27. Brisbane, 33. À Cairns, il fera 29 degrés. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximal de 39 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, le Premier ministre australien fait appel à la communauté internationale pour des conséquences concernant les plateformes des médias sociaux après la diffusion en direct de l'attaque terroriste à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement fédéral va réduire le nombre d'immigrés qui viennent en Australie chaque année. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.